Le sang de Jésus, il a coulé pour nous individuellement, mais il a coulé aussi pour la naissance de l'Église. Et ça, on le sait, puisque l'Église est née à la résurrection de Christ. Et donc, c'est tellement précieux, et si on réalise que c'est une Église sans tache, irréprochable, qui va être présentée devant le Seigneur, ça ne peut pas être une Église mélangée. Ça ne peut pas être une Église qui est faite avec du mélange, qui est faite... Et le diable, bien sûr, s'en est donné à cœur joie en presque 20 siècles pour apporter toutes sortes de choses qui sont pas pures dans l'Église. Alors Dieu fait grâce, ça m'arrive de donner ce témoignage, vous voyez, moi j'étais pareil, c'est la même chose, j'étais dans le mélange. Et il a fallu en 1977, au mois de novembre 77, il a fallu un réveil pour que Dieu me secoue et me touche. Et qui me montre des choses. Bien sûr, ça a bouleversé ma vie. Mais ça a pas seulement bouleversé ma vie, mais ça a bouleversé le système dans lequel j'étais, au point qu'à un moment donné, il y avait tellement d'opposition qu'on m'a mis dehors, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Chaque jour, le Saint-Esprit nous montrait des choses nouvelles. Il fallait que ça avance. Et à ce moment-là, je ne connaissais même pas encore d'autres frères qui avançaient dans la vérité. C'était qu'en 77. Et c'est comme ça qu'on a pu faire un travail de restauration. Le réveil a commencé à ce moment-là. Puis on a restauré ensuite, souvent dans la douleur. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Robert Ewing et puis d'autres. Et puis j'ai vu qu'effectivement, ils vivaient des choses que nous, on vivait déjà en Afrique. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez ? C'est merveilleux quand on comprend ça, mais il ne faut pas faire de compromis. Ça ne fait rien. Jésus n'a pas hésité à laisser partir le jeune homme riche. Autant il avait de l'argent. Hein. Et combien d'églises sont bâties et se développent sur l'argent? Ah ben lui, il a de l'argent, il faut qu'on le garde au milieu de nous. Hein. Et combien? Alors on ne le dit pas comme ça, mais en fait... Dans la pensée, c'est là. Donc, ça, c'est une grande clé. Et là, il ne faut pas transiger. Si vous voulez bien comprendre ce point, vous lisez Galates 2. Et vous voyez que deux fois, il est écrit que, par deux fois, Paul a été ferme et n'a pas transigé avec la vérité de l'Évangile. C'est écrit deux fois. Une fois en rapport avec l'extérieur, les faux frères. Une fois en rapport avec l'intérieur, Pierre. Alors il faut absolument être clair, être ferme. Je ne dis pas d'y être dur, hein, mais être ferme et ne pas construire avec de... Comment je vais dire ? Je vais le dire comme ça, je vais dire ne pas construire comme voulait faire Pierre dans Matthieu 17. Vous voyez, Pierre, il voulait construire des tentes, trois tentes. Mais une tente, ce n'est pas solide. Une tente, s'il y a un peu trop de vent, elle s'envole. Ce n'était pas le moment de construire des tentes. C'était le moment de comprendre comment l'Église devait être construite. C'était le commencement de l'Église. Hein. Je dis souvent que vous avez trois fois le mot Église dans l'Évangile, une fois dans... Matthieu 16, je bâtirai mon église. Deux fois dans Matthieu 18. C'est quand même intéressant. Matthieu 16, c'est le corps de Christ. Matthieu 18, c'est l'assemblée locale. Si quelqu'un a péché, dis-le à l'église. Puis entre les deux, entre Matthieu 16 et Matthieu 18, il y a Matthieu 17. Moi, je ne vous apprends rien. Hein. Et c'est pas possible que Matthieu 17 ne parle pas de l'église qui est entre les deux. Et effectivement, vous avez des principes essentiels pour la construction de l'Église dans Matthieu 17. Et un des principes, on ne peut pas construire des tentes. Non, l'Église, c'est quelque chose, c'est l'édifice de Dieu, c'est le temple, entre guillemets, hein, pas un temple humain, bien sûr, mais c'est quelque chose de solide. Donc, cette clé, là, dans Genèse 1, c'est la création. La création, c'est le commencement. Si l'Église, elle commence mal, elle continuera mal. Vous voyez ? Il faudra encore un réveil pour qu'il y ait restauration. Et c'est pour ça qu'au cours de toute l'histoire de l'Église, comme de l'histoire d'Israël d'ailleurs, il a fallu plusieurs fois des réveils. Et Dieu permet ces réveils parce que les hommes, ils ont très vite fait de s'écarter de la saine doctrine. Ils ont très vite fait de, vous rappelez-vous le précédent, de désobéir. Désobéir à ce que Dieu a dit. C'est pas nouveau. Adam et Ève ont commencé. Ève a ajouté, elle a enlevé à la parole. Et puis, c'est exactement ce qu'on fait au niveau de l'Église. Là, il faut être particulièrement vigilant. Voyez, c'est pour ça qu'il faut que dans l'Église, il y ait plus de, je dirais, le plus possible des frères et des sœurs qui soient des hommes et des femmes de la parole, comme l'était le prophète Élie. Être des hommes et des femmes de la parole. Je dis souvent que moi, ce n'est pas au travers des miracles que j'ai tenu debout jusqu'à maintenant. Non, absolument pas. Ce n'est pas au travers des guérisons, des dons spirituels, quels qu'ils soient. Non. Je bénis le Seigneur quand les dons spirituels se manifestent, quand il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais ce n'est pas ça qui me tient debout. Ce n'est pas ça qui me fait persévérer. Non, c'est le fait d'avoir cette communion avec Dieu dans sa parole. Et dans la prière, bien sûr, puisque sinon il n'y a pas de communion avec le Seigneur. C'est la clé. C'est vraiment la clé. Je rappelle, des fois je dis, ma maman, elle n'a pas eu d'église depuis sa nouvelle naissance, c'est-à-dire en 1971. Et la première fois où elle a eu une vie d'église, c'était au mois de juin 2008, en Alsace. Vous vous rendez compte, de 71 à 2008, les années, il n'y avait pas d'église. À Chamonix. Il n'y en a toujours pas d'assemblée chrétienne. Son mari n'était pas chrétien. Alors comment elle tenait debout? Elle lisait la Bible tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a 86 ans, elle a lu 85 fois la Bible en entier. Mais elle tient debout, même si elle ne comprend pas tout, elle tient debout. C'est ça la clé. Et c'est la première clé. Bien, on va voir la deuxième. La deuxième clé est souvent avec la première. Ce sont les versets 6, 7 et 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. L'étendue ciel, pardon. J'ai rajouté quelque chose. Appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un matin, ce fut le second jour. Eh bien là, vous l'avez compris, on trouve souvent le mot « eau » ici. Et je prends par exemple un verset, c'est un verset parmi d'autres, Apocalypse 17, 15. « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Alors, les eaux dans la Bible, attention, je n'ai pas dit les fleuves. C'est différent. Les eaux, les mers, les océans, etc. N'oubliez pas qu'il y a un tiers de terre, Dieu, deux tiers d'océan. Effectivement, les eaux représentent le monde. C'est l'étape du monde. Merci. Et c'est quelle clé ici ? Eh bien, c'est la clé de la sanctification. La justification, c'est bien, mais la justification, elle a son pendant. C'est comme une pièce de monnaie, il y a le pile et il y a le face. La justification sans la sanctification, c'est la foi sans les œuvres. Jacques 2. Et elle est morte. Ça veut dire elle fonctionne pas. Vous voyez, ah tiens, toi tu es chrétien, c'est bien, gloire à Dieu, et puis je fais rien. Tu fais rien dans l'Église. Tu es chrétien, mais tu ne fais jamais rien. Et pourquoi tu fais rien ? Ben, tu fais rien parce que tu vis avec le monde, parce que tu n'es pas en accord avec ce qui s'est passé quand tu as été justifié. Vous comprenez ? Il faut qu'il y ait cette sanctification, il faut qu'il y ait cette séparation des eaux, qui sépare les eaux d'avec les eaux. Il faut qu'il y ait une séparation. Ça, c'est la deuxième grande clé. On ne peut pas construire l'Église correctement avec des personnes justifiées qui ne se sanctifient pas. La preuve, ce sont les Corinthiens, qui étaient des saints, qui n'étaient pas saints. Je dis souvent ça. Je peux ? Merci. Je n'ai pas pris ma Bible. Des saints qui n'étaient pas saints. Hein, vous connaissez ce passage. Il y a deux mots pour dire saint en grec. Il y a le mot agios et le mot osios. Et le mot agios, il veut dire saint par vocation. C'est-à-dire, c'est un... Ils sont... La justification, c'est un acte de justice. C'est, je dirais, au tribunal de Dieu, on a été déclaré juste. C'est un acte. Eh bien, le mot agios, c'est aussi un acte de justice. Dieu a déclaré que tous les chrétiens, tous ceux qui ont été justifiés, ils sont obligatoirement saints. C'est un acte de justice. Le sang de Jésus nous a rendus complètement saints. C'est le mot que vous trouvez donc dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. C'est pour ça que ces deux actes qui se suivent, ils vont ensemble. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Alors c'est marqué « appelé à être saint ». Non, c'est « appelé saint ». À être, vous pouvez le barrer. Hein. « Appelé saint ». Alors c'est intéressant de voir que quand vous lisez 1-2 Corinthiens, vous retrouvez ce mot agios, mais vous n'avez jamais le mot osios. Jamais. Parce que le deuxième mot, il veut dire sainteté progressive. C'est cette sainteté qui... C'est le processus de sanctification, si vous voulez. Et vous ne le trouvez jamais dans les Corinthiens. Parce que les Corinthiens, ben, vous connaissez leur histoire, hein. Ils ne vivaient pas dans la sainteté, malheureusement. Donc c'est pour ça que je dis que c'était des saints qui n'étaient pas saints. Alors, si le premier acte, la justification, c'est en rapport avec l'acte de justice, de sainteté, tu es déclaré saint parce que le sang de Jésus a coulé pour toi, tu es un saint, d'ailleurs c'est comme ça que s'appelaient tous les premiers chrétiens, des saints, mais il y a la deuxième étape, il faut que tu sois un saint qui marche dans la sainteté. Parce que si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne pourras pas aider à la construction de l'Église. Vous voyez ? Tu vas être mélangé avec le monde, tu vas t'occuper du monde, des choses du monde. On est déjà bien obligé de s'occuper du monde malgré nous, vous êtes d'accord ? Hein ? Parce que regardez comment on est obligé d'avoir un travail. On est pour subvenir aux besoins de la famille. Il faut bien qu'on ait de l'argent qui rentre. Et l'argent, on l'a en travaillant. Et le diable agit de plus en plus pour que les gens soient obligés de prendre tout leur temps pour travailler. Et là, c'est là qu'on doit réaliser qu'est-ce que je suis prêt à vivre comme chrétien. Est-ce que cette clé-là, je suis prêt à la mettre en pratique ? Et là, vous allez voir que vous allez être amené à agir à contre-courant. À contre-courant par rapport au monde qui va, bien sûr, qui va vous haïr, qui ne va pas apprécier ce que vous faites. Avant l'euro, eh bien, un salaire était suffisant pour faire vivre une famille. Depuis l'euro, il faut que les deux parents travaillent si on veut arriver à vivre. Alors il y a des sacrifices à faire. Et ça, c'est chacun qui doit, c'est-à-dire c'est la famille qui doit réfléchir comment on fait pour justement ne pas se laisser prendre par le monde. Là, oui, je ne parle même pas de péché avec le monde, vous avez compris. Hein, je parle de ne pas se laisser, j'allais dire phagocyter, mais de ne pas se laisser... entourer, prendre, c'est Hébreux 12, enveloppé, merci. Hébreux 12, versets 1 et 2. Hein. Rejetez tout péché et le fardeau qui vous enveloppe si facilement. Il y a le péché. Alors le péché, c'est celui qui pêche avec le monde. C'est celui qui accepte que le monde puisse avoir une place dans sa vie personnelle ou dans sa vie de famille. Mais il y a le fardeau. Et le fardeau, ce n'est pas le péché. Le fardeau, c'est l'emprise du monde qui va empêcher le chrétien de construire l'Église. Et là, il faut se mettre devant Dieu, il faut se poser des questions, et il faut décider qu'est-ce qu'on est prêt à faire. On a tous des questions à se poser, et on a tous à bien réfléchir à ce sujet. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, eh bien, un bel avenir professionnel m'était promis. Je devais être inspecteur des douanes au tunnel du Mont-Blanc. Puis après, j'ai eu d'autres possibilités, aussi très, très intéressantes. Mais le fait de toujours prier avant d'avoir un travail, le Seigneur parle. Et si le Seigneur dit non, il ne faut pas le prendre. Et c'est là qu'on voit qu'on est, nous aussi, appelés, dans ce domaine-là, à faire une séparation. Ça nous coûte, parfois. Ça nous coûte. Ça peut nous coûter cher. Mais ça vaut la peine. Je me souviens toujours de cette parole du Seigneur en 1981. C'était dans le premier trimestre. Et le Seigneur me disait cela. Tu peux rentrer en France. Tu peux terminer tes études. Je te bénirai. Et tu... Je sais plus. Je te bénirai. Oui, je te bénirai. Voilà, je vais pas dire plus, je ne me rappelle plus après. Bien. Mais si tu restes en Afrique, tu souffriras. Mais je te bénirai encore plus. Le choix a été vite fait. C'était facile. Mais c'est facile quand on a franchi le test de la séparation. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à la retraite. On en parlait l'autre jour chez des amis. J'ai été à la retraite à l'âge de 47 ans et demi. Pourquoi ? Aujourd'hui encore, je ne le sais pas. Et on m'a payé ma retraite à 47 ans et demi. Bon, ben, aujourd'hui, je vois la grâce de Dieu. J'avais besoin de temps libre, j'avais besoin d'argent pour voyager, j'avais besoin d'avoir des bonnes années devant moi pour faire le travail. Bon, ben, ça s'est fait. Mais pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui est intervenu. Et le Seigneur a vu les choix qui avaient été faits dans les années, les dizaines d'années précédentes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le test de la sanctification, il est essentiel au niveau du péché, mais aussi au niveau du fardeau. Rappelez-vous Jacob, dans Genèse 35, il a dit à sa famille il a dit d'enfouir toutes les idoles. Vous vous rappelez que Rachel, elle avait volé les théraphim de son père. Ça, c'est le péché. Mais ils ont aussi changé de vêtements. Ils ont aussi enfoui leurs bijoux. Et ça, ce n'était pas le péché, ça, c'était le fardeau. Ils ont pris cette décision de sanctification. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous lisons dans le verset qui suit : la terreur de Dieu s'est emparée des peuples qui étaient autour. Parce qu'ils ont fait, une séparation tellement claire que les peuples autour d'eux avaient la crainte. Ils avaient peur. C'est la deuxième clé. La troisième, Genèse 1, versets 9 et 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. On lit dans Job 38, versets 8 à 11, « Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » bien sûr, c'est en rapport avec ce qui précède. On a parlé du monde avec la mer. Et vous voyez, Dieu a autorité sur le monde. Et il dit, les prérogatives du monde s'arrêteront là. Et quand on fonctionne bien au niveau de la justification et de la sanctification, on ne peut plus avoir peur du monde. On ne peut plus avoir la crainte des grands de ce monde. Parce que Dieu a déjà donné des limites à la mer et à tous ceux qui sont dans cette mer. C'est la clé d'autorité. Vous l'avez compris, la troisième. C'est la clé de l'autorité. Dieu a autorité sur ce monde. Satan est le prince de ce monde, mais Dieu en est au-dessus du prince. Et alors là, on n'a absolument rien à craindre. Mais alors rien du tout. Arrêtons de nous faire du souci. Ah, mais oui, on a commencé l'église, mais il y a les autorités locales là qui veulent nous empêcher de nous réunir. Il y a les voisins qui commencent à faire des problèmes. Mais ça fait rien. Mais prions. On est justifié. On est sanctifié. C'est pas possible que Dieu nous laisse tomber. Vous voyez ? C'est vrai, je parle de la construction de l'église, mais c'est vrai dans nos vies, c'est vrai pour nous. N'ayons aucune crainte. J'ai eu l'occasion de donner ce témoignage il n'y a pas longtemps. On était en Algérie, j'étais avec Jérémy, mon gendre, et je me suis fait arrêter par la gendarmerie. C'est la deuxième fois en 19 ans d'Algérie, c'est la deuxième fois qu'on m'emmène dans un commissariat de police. De commissariat de police, moi, gendarmerie, je veux dire. La deuxième fois. Ils avaient prévu de m'arrêter à tel endroit, et ils avaient été prévenus à l'avance, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont mis un barrage exprès pour m'arrêter, parce que quand ils m'ont arrêté, ils ont enlevé le barrage. Et ils avaient prévu de me mettre en prison, dans un premier temps, puis de me renvoyer en France ensuite. Mais il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Dieu tenait tout ça dans sa main. Et je ne savais pas comment on allait en sortir, mais je savais que Dieu allait faire quelque chose. C'était d'autant plus que le voyage était presque terminé, mais pas tout à fait terminé. On avait été prévenus avant de partir. Moi, j'avais reçu quelque chose. Il y a elle aussi, puis encore une autre personne. Puis en Algérie, on a un frère qui avait aussi reçu qu'il y aurait quelques difficultés. Et donc, on était à 3 jours du départ, et puis Jérémy me dit « Ah, mais c'est bien, ça s'est quand même bien terminé, ça s'est bien passé. » On était presque à la fin des 2 semaines. Et puis là, c'était le matin, et je lui dis « Attends, Jérémy, il y a encore 3 jours, on va voir. Hein » Et dans l'après-midi, on nous arrête. Alors, on a dit « Seigneur, on a simplement prié intérieurement, on s'est attendu au Seigneur. » Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Il se trouve qu'un coup de téléphone est arrivé à la gendarmerie de quelqu'un de haut placé qui a dit « Laissez-les tranquilles, laissez-les partir. » On connaît même pas la personne qui a envoyé ce coup de téléphone. Vous voyez, c'est merveilleux. Et puis, il était prévu qu'il nous emmène dans des voitures jusqu'à l'aéroport d'Alger, après nous avoir gardés là-bas. Eh bien, on est resté peut-être 1h30 sur place. Et ils nous ont rendu les passeports, ils ont dit « Allez, vous pouvez partir. » On n'a pas à s'inquiéter. C'est Dieu qui a l'autorité. C'est Dieu qui fixe les limites de la mer. La mer, c'est le monde. Il fixe les limites. Donc, quelle que soit la situation, il n'y a rien de grave. Et puis au pire, ils nous auraient arrêtés. Qu'est-ce qui se serait passé? Vous auriez pris l'avion, vous m'auriez apporté des oranges en prison. Puis voilà, c'est pas un problème, vous comprenez? C'est pas un problème, on ne s'appartient plus à soi-même, il y a plus de... On ne vit plus dans la crainte, dans la peur, dans... On vit maintenant autrement. Si on n'a pas bien compris la clé de l'autorité, on ne peut pas non plus construire correctement l'Église. Parce que l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. On ne peut pas agir dans l'Église comme on agit à l'armée, comme on agit, comme on le voit malheureusement dans des pays dictatoriaux, tyranniques. Non, on ne peut pas. L'Église, c'est l'Église du Seigneur, et on n'a que l'autorité qu'on nous permet d'avoir. Si à un moment donné, les chrétiens n'acceptent pas l'autorité. Ils n'ont pas, les Corinthiens n'ont pas accepté Paul à un moment donné, et Paul n'est pas allé à Corinthe, tout simplement. Il a attendu que Corinthe envoie une ambassade pour lui poser des questions. Eh bien, parfois, c'est ce qui se produit. On est obligé, à regret, comme certains, dans certaines familles, des parents qui sont obligés à regret de laisser partir leurs enfants, même si ce n'est pas le moment. L'autorité nous est donnée par le Seigneur. L'autorité, dans le service que vous faites dans l'Église, vous la recevez du Seigneur. Donc, n'abusons jamais de l'autorité. Il ne faut pas en abuser. Mais d'un autre côté, l'excès inverse, il ne faut pas non plus être laxiste. Je connais malheureusement des ministères qui n'aiment pas les histoires. Ils n'aiment pas les histoires, alors ils ne disent jamais rien. Et ben, ils n'ont jamais d'histoire. Mais dans l'Église, il y a plein de problèmes. Il faut savoir prendre ses responsabilités, mais comme dit la Bible, Éphésiens 4:15, dire la vérité dans l'amour. Zacharie, dire la vérité en vue de la paix. Donc, c'est très important, l'autorité. Tout le monde ne peut pas avoir la même autorité dans l'Église. On est dans Genèse 1 et 2. Adam n'avait pas la même autorité qu'Ève. On ne voit pas ça. Ève était l'aide d'Adam. Ils avaient tous les deux leur propre autorité, puisqu'il est dit « dominer » au pluriel. Donc ils avaient leur autorité. C'est ce fameux verset qui est mal traduit dans 1 Corinthiens 11 et qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, comme les versets voisins de ce passage. 1 Corinthiens 11 où il est écrit... Le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Mais ce n'est pas ça la bonne traduction. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête son autorité. La sienne. Ce n'est pas passif, c'est actif ici, en grec. Le mot « marque », il n'y est même pas, dans l'original. Son autorité, la sienne propre, pas l'autorité dont elle dépend. Ce n'est pas passif, on est d'accord ? Et c'est pour ça qu'elle peut dominer. C'est pour ça que dans Proverbe 31, vous voyez cette femme modèle, idéale, qui a son propre champ, qui fait ses affaires, mais qui fonctionne bien avec son mari. Elle a son autorité, c'est clair. Donc, on peut beaucoup parler de l'autorité, on pourrait dire beaucoup de choses, mais c'est une grande clé. Si l'autorité ne fonctionne pas bibliquement, ça va être dramatique dans l'Église. Ça va être la porte ouverte au clan. Chacun va vouloir faire ce qu'il veut. C'est l'histoire des chrétiens qui reçoivent, ça on en parlera plus demain, mais qui reçoivent un don spirituel, et puis et tout d'un coup ils se sentent investis d'un ministère, et ils comprennent les choses à leur manière, alors ils ne sont plus d'accord avec les anciens ou avec les autres ministères, et donc ils commencent à faire des choses à part, et puis bien sûr, ça fait le jeu de l'ennemi. David et Absalom, David et Ishbosheth, deux rois en même temps dans le même pays. Vous avez remarqué, ça se passait pour les deux, ça s'est passé à Mahanaïm. Et Mahanaïm, ça veut dire deux camps, deux armées. Vous voyez, il y a deux domaines. Mahanaïm, à chaque fois que vous lirez ce mot dans l'Ancien Testament, vous verrez, c'est toujours en rapport avec un problème d'autorité. C'est toujours un problème avec l'autorité. Dans Genèse 29, au verset 1er, vous voyez que Jacob, eh bien, il est passé à Mahanaïm, et puis là, il a rencontré des anges, et il dit qu'il y avait le camp de Dieu. Mais il y avait aussi le camp de Jacob. Il y avait deux camps, mais il n'y avait pas de problème d'autorité quand il est passé à Mahanaïm. C'est pour ça que la Bible ne dit rien, ne dit, il n'y a pas de problème entre Jacob et les anges à ce moment-là. Le problème va arriver après avec Laban. Il va avoir un problème d'autorité avec Laban. Mais c'est dû à autre chose. Hein. On sait que c'était un trompeur, on sait que Dieu veut toucher. Souvent, quand il y a des problèmes dans l'Église, vous verrez, c'est parce que Dieu veut toucher quelque chose dans la vie des personnes. Et là, il faut accepter et il faut se laisser corriger, tout simplement. Mais d'abord, c'est l'autorité de Dieu. Hein. Jacques 4,7, soumettez-vous à Dieu. Si on ne se soumet pas pleinement à Dieu, à sa parole, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à accepter des corrections au niveau de la construction de l'Église. Et ça va être gênant pour la suite. Donc, vous voyez que c'est une clé qui est très importante. Nous arrivons à la quatrième clé. Ça va toujours ? Ça va vite. Quatrième clé, Genèse 1, versets 11 à 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est le psaume 23, hein. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Alors, cette clé, c'est la clé de la semence, hein. La clé de la reproduction. Et là, ça veut dire quoi, clé de la reproduction ? Ben, c'est l'évangélisation, bien sûr, l'évangélisation, mais pas seulement l'évangélisation. L'évangélisation, c'est insuffisant. D'abord, tiens, je vois qu'il y a une erreur. L'évangélisation, c'est possible seulement s'il y a un bon témoignage. S'il n'y a pas un bon témoignage, c'est pas possible. On ne peut pas évangéliser. Il faut être un témoin. C'est pour ça que c'est écrit dans Acte 1. C'est même une grande clé du livre. « Soyez mes témoins », acte 1, 8. Le témoignage, et bien sûr, pour qu'il y ait un bon témoignage, c'est en rapport avec ce qui précède, justification, sanctification. S'il y a un bon témoignage, on va pouvoir évangéliser. Et là, il y aura une reproduction possible. N'oubliez jamais que la reproduction ne peut pas venir de l'homme. Elle vient de Dieu. C'est Dieu, acte 2, 47, et le Seigneur ajouté à l'Église. C'est le Seigneur qui ajoute. Nous, notre travail, c'est d'être des témoins. En étant un témoin, on peut évangéliser. Et pourquoi je dis que c'est insuffisant d'évangéliser ? Ben, tout simplement parce que vous avez des gens qui évangélisent. Vous avez des évangélistes qui vont dans des régions, et puis il n'y a pas de suivi. Et ces chrétiens, ben après, ils retournent dans le monde. Vous voyez ? Ils sont chrétiens, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont été évangélisés, mais il n'y a pas de suivi. Et ça, c'est parce qu'il y a cette clé-là, elle n'est utilisée qu'à moitié. L'évangélisation en elle-même, c'est insuffisant. Il doit y avoir évangélisation plus, c'est dans la même clé ce que je vous dis là, plus formation de disciples. Vous ne pouvez pas séparer la fin de Marc, Marc 16, de Matthieu 28. Ce n'est pas possible. Allez former toutes les nations comme disciples. C'est bien écrit dans Matthieu 28. Alors si on pratique Marc et pas Matthieu, j'en profite pour vous dire que le premier évangile qui a été écrit, c'est Marc. On devrait avoir Marc avant Matthieu, dans l'ordre chronologique, dans nos Bibles. On évangélise d'abord, on forme des disciples après. Et si on ne fait pas ce travail correctement, il n'y aura pas une bonne reproduction. Ça ne se fera pas. Et il n'y aura pas de suivi dans le travail. Il n'y aura... On a perdu au fil des siècles, au niveau de l'Église, la notion de père-fils. On a perdu cette notion. Il y a des chrétiens qui m'ont dit « Moi, je n'ai que Dieu comme père spirituel. » La notion de père spirituel en parlant des hommes, ça n'est pas biblique. Alors, c'est pas possible, ça. Paul dit clairement à Timothée, à Tite, « Mon enfant dans la foi ». Vous voyez, la notion de père est très importante. Ce qu'on vit dans la famille, on est appelé à le vivre dans l'Église. Il doit y avoir des pères. Paul dit aux Corinthiens qu'il est un père pour eux. C'est d'ailleurs une des douze facettes du ministère apostolique qui nous est citée dans Corinthiens. Si vous lisez attentivement 2 Corinthiens, vous verrez qu'il y a 12 images de l'apôtre, et une de ces images, c'est le Père. C'est pour ça que les apôtres, ils ne doivent pas se contenter de commencer un travail, mais ils doivent visiter. Acte 10, Pierre visitait les saints. C'est ça, le travail de Père. Et malheureusement, trop d'églises sont orphelines. Alors, on a perdu cette notion de père-fils. Et par quoi on l'a remplacé? Parce que quand on perd quelque chose, il faut toujours qu'il y ait autre chose. Il ne peut pas y avoir le vide, sinon les gens s'en vont. Eh bien, ça a été remplacé tout simplement par les dénominations. On ne dépend plus d'un père, on dépend d'une dénomination. Avec un bureau national, etc., etc. C'est pour ça que les gens sont tant attachés à leur dénomination, vous comprenez? Parce que des enfants, ils sont attachés à leurs parents. Bien sûr. Et il faut retrouver, si on veut construire l'Église correctement, il faut reproduire correctement. La semence, on l'a. On va l'avoir. Dieu va donner la semence. Dans le domaine naturel, deux personnes se marient, c'est en général, ben, ils vont avoir des enfants. Et c'est intéressant de voir que le mot enfant dans le Nouveau Testament, c'est le même mot qui est employé pour enfant physique et enfant spirituel. C'est le même mot. Alors même si on n'a pas des enfants physiquement, on doit en avoir spirituellement.